Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. En 2007, le président Nicolas Sarkozy affirmait que le problème de l'Afrique, c'est de rester fidèle à elle-même sans rester immobile. Le défi de l'Afrique, c'est d'apprendre à regarder son accession à l'universel, non comme un reniement de ce qu'elle est, mais comme un accomplissement. L'OADA participe assurément de ce mouvement, de cette évolution en marche. Créée il y a 30 ans, l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est, malgré son importance pour le commerce africain, une institution méconnue. Un sujet important aussi de culture générale, comme en témoignent les annales des grands oraux des concours de l'ENM ou de la police. L'enjeu de l'OADA est la facilitation des échanges et des investissements, ainsi que la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises en Afrique. Le droit issu de l'OADA est ainsi utilisé pour propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'OADA porte un véritable système juridique et judiciaire, un droit des affaires édifié donc, fondé sur le modèle du traité, des règlements, des droits uniformes, mais aussi une jurisprudence et une doctrine propre. Quels en sont les succès, les difficultés? Quelles sont les conséquences du contexte géopolitique sur l'OADA, notamment en raison du discrédit français? Pour nous parler de cette institution, de son histoire, de son évolution, nous recevons Laurent Benkemoun, magistrat, ancien coordonnateur de programme auprès de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Laurent Benkemoun, bonjour et merci de participer au podcast de l'ISP.
Bonjour.
Alors, Laurent Benkemoun, est-ce que vous pouvez, pour commencer, évoquer la création l'OADA et nous en présenter les bases?
L'OADA a été créée par le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, entré en vigueur en 1995, Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Le traité de Québec du 17 octobre 2008 est venu compléter le premier traité. Il est entré en vigueur en 2010. L'OADA réunit au départ 16 pays africains, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo-Brazza, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'OADA est ouverte à l'adhésion de tout membre de l'Union africaine, voire de pays extérieurs à l'Union africaine si les membres de l'OADA en sont d'accord. La République démocratique du Congo a adhéré en 2012. Il y a donc désormais 17 États parties. Tous appartiennent à la zone franc, sauf la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry et les Comores. Un de ces 17 États parties est lusophone, un autre est hispanophone et un troisième, partiellement anglophone, c'est le Cameroun, on l'aura reconnu. L'OADA comprend désormais 4 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Les institutions prévues par les deux traités de Port-Louis et de Québec sont la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le conseil des ministres, le secrétariat permanent, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qu'on appelle communément la CCJA, et l'école régionale supérieure de la magistrature, que l'on appelle également communément l'ERSUMA. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a été créée par le traité de Québec. C'est la seule institution qui a été rajoutée. Voilà. Le secrétariat permanent est situé à Yaoundé, au Cameroun, la CCJA à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et l'ERSUMA à Porto Novo, capitale du Bénin. Il existe également des institutions hors traité. Le comité des experts, les commissions nationales, la commission de normalisation comptable. Je reviendrai un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, sur les commissions nationales que je définirai. Il existe 11 actes uniformes, l'abréviation étant AU, l'acronyme, qui sont déjà entrés en vigueur. Les 8 premiers actes uniformes étaient relatifs à l'arbitrage, le droit commercial général, les sociétés commerciales et les GIE, le droit comptable et l'information financière, les sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, les procédures collectives d'apurement du passif, les contrats de transport de marchandises par route. Certains de ces 8 premiers actes uniformes ont été modifiés, d'autres ont été abrogés et remplacés. Il me semble qu'il n'y a plus que 3 actes uniformes en vigueur qui sont d'origine. Bien. Les trois derniers actes uniformes sont consacrés à la médiation, aux sociétés coopératives et, troisièmement, au système comptable des entités à but non lucratif. L'article 2 du traité OADA prévoit que, pour l'application du présent traité, entre dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives aux droits des sociétés et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait. Alors, ce dernier membre de phrase, évidemment, alertera l'attention de tout le monde, puisque, évidemment, ça permet d'échapper au droit des affaires stricto sensu et les autorités de l'OADA ne s'en privent pas. Ainsi, en 2001, le Conseil des ministres a décidé d'inclure donc dans le champ de l'OADA le droit de la concurrence, le droit bancaire, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés civiles, le droit des sociétés coopératives et mutualistes, le droit des contrats, le droit de la preuve. Il n'échappera à personne que certaines de ces matières ne sont pas des matières commerciales stricto sensu. En 2013, également, le Conseil des ministres a demandé au secrétariat permanent de conduire des études à l'effet d'évaluer la faisabilité, l'opportunité d'extension du droit à OADA, je cite, aux matières suivantes, la facturage, le crédit bail, la franchise, la sous-traitance, la co-entreprise, la médiation, le contrat de travail, les contrats de partenariat public-privé, les règlements de conflit de loi et la circulation des actes publics.
Alors on constate que le champ donc d'investigation, ce sont évidemment toutes les matières de droit des affaires, mais vous l'avez dit, au-delà aussi. Pourquoi l'OADA a-t-elle été créée ? Quelle est son importance ?
Alors, on va se dire les choses franchement, on ne va pas se mentir, comme on dit aujourd'hui. L'OADA, qui vient de fêter, comme vous le savez, en grande pompe, son 30e anniversaire, a été créée, alors premièrement, par la France, qui était à l'époque chez elle dans ses anciennes colonies. Alors là, je parle d'il y a 40 ans, c'est évidemment plus du tout le cas aujourd'hui. Ça a été créé donc par la France à l'instigation des grands opérateurs économiques. Pour quelle raison ? Pour renforcer la sécurité juridique des échanges économiques, qui est évidemment tout à fait questionnable en Afrique. Et comment, de quelle manière ça a été créé ? Ça a été créé avec le concours technique des grands universitaires et avocats français et africains, commercialistes et africanistes.
Oui, il n'y a pas de marchés commerciaux sans droit des affaires et un droit permettant de réaliser au moins sur une partie du continent africain des contrats d'affaires presque uniformes, en tout cas dont la sécurité juridique est assurée par un système commun, c'était évidemment extrêmement important. Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'OADA ? Je le disais en introduction, cette institution porte un véritable système juridique et judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Laurent Benkemoun ?
Oui, volontiers. L'OADA est originale à deux égards. Il y a deux grandes originalités, peut-être d'ailleurs uniques au monde. Alors, la première de ces originalités, c'est que les actes uniformes qui sont adoptés en Conseil des ministres des membres de l'OADA sont d'application directe dans le droit interne des États parties. Ils n'ont pas besoin d'être transposés ou de faire l'objet d'une réception quelconque, par exemple la loi ou le décret. Donc on peut considérer, de manière un petit peu comme ça provocatrice, que les actes uniformes constituent le droit national des États parties. La deuxième grande originalité, c'est que c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage. C'est la juridiction de cassation unique à toute la zone OADA. L'article 14 du traité indique que, je cite, « Saisie par la voie de recours en cassation, la Cour commune de justice et d'arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur des décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des États parties dans les mêmes contentieux. » Alors, pour dire les choses de façon peut-être plus terre-à-terre et plus simple pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, en matière commerciale, dans la zone OADA, toutes les décisions rendues en premier et dernier ressort par un tribunal de commerce et toutes les décisions rendues par des cours d'appel en statut en matière commerciale, les recours en cassation ne sont pas portés devant la Cour suprême ou la Cour de cassation locale, nationale, mais devant la CCJA à Abidjan. C'est donc un abandon de souveraineté, en général et souveraineté judiciaire en particulier, massif, très important.
Ah oui, effectivement, entre les actes uniformes et donc cette juridiction de cassation unique, on a effectivement un système à la fois juridique et judiciaire très puissant, très intégré. L'OADA est-elle une institution en expansion ? Y a-t-il des pays candidats à l'adhésion aujourd'hui ?
Oui, plusieurs pays sont candidats de façon plus ou moins avancée et sérieuse. Je peux en citer quelques-uns, le Burundi, le Maroc, Madagascar. Pour ne parler que du Burundi, les autorités burundaises ont diligenté l'an passé une étude de faisabilité et d'impact et se montrent très favorables à une adhésion qui paraît acquise dans les années à venir. De même, à Madagascar, où il y a plus de réticences, notamment des magistrats qui craignent d'être dépossédés effectivement d'une partie de leur souveraineté, à l'OADA, à Madagascar, les discussions sont en cours, sont très riches, très intéressantes. La pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre, je ne saurais me prononcer, puis c'est une matière de souveraineté, et je respecte évidemment les malgaches sur ce point. La question du Maroc, on le comprend, il n'y a pas de pays du Maghreb membre de l'OADA. Si le Maroc devait adhérer, se poserait la question, bien sûr, de la langue de travail, voilà, et également, du droit musulman. Donc, c'est très stimulant, c'est très intéressant. On peut être pour, on peut être contre. L'enjeu de toutes ces questions d'extension, notamment territoriale, c'est que l'OADA sorte de son berceau d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour s'ouvrir à des régions nouvelles, le Maghreb, les Grands Lacs et l'Afrique orientale, l'océan Indien. Un autre enjeu, on l'a compris, est que des langues et cultures juridiques nouvelles viennent vivifier et africaniser l'OADA. Alors, la common law, qui est le régime juridique d'une partie du Cameroun, comme on le sait, mais aussi le droit musulman, la langue arabe, mais aussi les grandes langues véhiculaires africaines.
Très bien, merci Laurent Benkemoun. À quoi l'OADA tient-elle donc son attractivité ?
Alors je vois deux grandes pistes. L'OADA est d'abord vectrice d'une législation moderne et constamment révisée. C'est également une législation supranationale tout en étant de plus en plus adaptée à la réalité du continent africain, ce qui n'était pas forcément le cas des premiers actes uniformes dans leur rédaction il y a maintenant pas loin de 40 ans. Elle est accompagnée, cette législation, d'un corpus doctrinal et prétorien grandissant, de grande qualité et vraiment impressionnant. Voilà. Et également, deuxièmement, l'OADA est synonyme de sécurité juridique grâce à la Cour commune de justice et d'arbitrage qui non seulement uniformise et diffuse la jurisprudence, mais constitue un antidote à la corruption qui gangrène souvent les juridictions judiciaires africaines. Il faut bien le reconnaître. Les décisions de la Cour commune de justice et d'arbitrage sont applicables dans toute la zone et, je le précise, dispensées d'exéquature. Alors, je fais une petite incidence, j'y reviendrai plus tard. La dispense d'exéquature ne dispense pas néanmoins de la formule exécutoire. Hein. On ne fera pas la confusion. Et également, l'OADA est censé favoriser l'investissement et donc la croissance économique. Mais cet aspect demeure, il faut bien le reconnaître, peu documenté et peu démontré.
Alors justement, entrons un peu dans le vif du sujet, cette fois-ci d'un point de vue économique notamment. Restons tout de même sous l'angle de ce système judiciaire. Quels sont les grands succès de l'OADA depuis sa création ? Quelles sont les grandes avancées portées ?
Selon moi, il est indéniable que le plus grand succès de l'OADA ne tient pas tant à la croissance économique qui n'est pas vraiment mesurée, on est un peu dans l'incantatoire ou le déclaratif, ni même à la sécurité judiciaire qui est perfectible. Il y a eu d'immenses progrès, mais des progrès restent à faire. Pour moi, le plus grand succès est la création d'une nouvelle génération de jeunes juristes africains, avocats, juristes de l'entreprise, magistrats, nés après 1993, et qui, par-delà les frontières et les nationalismes encore très ou trop présents, parlent désormais une même langue, le droit uniforme. Au titre des grandes avancées, on constate que l'OADA a su se réformer en 2008 avec le traité de Québec et susciter l'adhésion de la République démocratique du Congo en 2012, ce qui démontre à soi seul la plus-value et la désirabilité de l'OADA, étant observé bien sûr que la RDC est une ancienne colonie belge.
Alors ça, ce sont les grands succès,
si vous permettez, si vous
laissez la parole. Allez-y, je vous en prie.
Sur le plan procédural également, désormais les échanges de conclusions et de pièces peuvent s'effectuer par voie électronique et n'importe quel avocat inscrit dans un barreau de la zone OADA peut se constituer devant la CCJA.
Très bien, merci pour cette précision, Laurent Melkemoun. Ça, c'était donc pour les avancées passées. Quelles sont celles à attendre? Quels sont les défis que doit désormais affronter l'OADA?
À l'origine, l'OADA, on l'a vu, est une construction technocratique et savante, imposée d'en haut et de l'extérieur à des États n'ayant pas toujours les ressources humaines adéquates pour se l'approprier. Elle a grandi trop vite et sans toujours se préoccuper de l'intendance. Plusieurs exemples. La mise en conformité, la mise en conformité des législations nationales n'a pas été effectuée dans tous les pays. De quoi s'agit-il? Il s'agit de lister l'ensemble des normes nationales qui ont été abolies par le droit uniforme, d'application directe, donc immédiatement, et de lister les normes nationales qui ont été maintenues en droit commercial. Parce que le droit de l'OADA ne couvre pas tous les champs ou laisse parfois la place à des mesures alors coutumières ou des mesures préter legem, par exemple. Et il faudrait que dans chaque pays, il y ait une grande loi balai qui liste tout cela. Ça n'a pas été fait partout, et c'est peut-être même d'ailleurs assez minoritaire. Il existe également des zones de friction, des affaires dites mixtes. Alors, il s'agit de dossiers judiciaires impliquant le droit uniforme et le droit national. Il y a de grandes controverses dans lesquelles je n'entrerai pas. Ça a fait l'objet de jurisprudence fameuse en cette matière. Certaines cours suprêmes, notamment celle du Niger, dans un fameux arrêt, Snerlema, ayant fait de la résistance, comme on dit. Et également, en droit pénal des affaires, le droit uniforme détermine seulement les incriminations et sanctions restant l'apanage des États parties. Les dossiers dans lesquels les parties s'entendent pour ne pas aller devant la Cour commune de justice d'arbitrage, mais devant la Cour suprême nationale qui ne se déclare pas incompétente. En gros, il est possible d'évincer la CCJA pour des parties si elles sont d'accord pour être jugées par leur propre Cour suprême. Et la CCJA n'a pas réellement de pouvoir de coercition et de pouvoir répressif. Voilà. J'ai d'ailleurs proposé dans certains articles de créer un parquet général qui aurait notamment pour tâche d'exercer cette discipline. Par ailleurs, une chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que le traité OADA a créé des registres de commerce et du crédit immobilier, qu'on appelle RCCM. C'est une pyramide tout à fait originale, puisque chaque pays a des RCCM qui sont centralisés dans un fichier national par pays. Et il existe également un fichier régional coiffant le tout à Abidjan, donc au siège de la CCJA. Cette pyramide n'est pas encore vraiment fonctionnelle. On ne s'en est pas donné totalement les moyens. Et également, il n'y a pas d'uniformisation des RCCM, ce qui fait qu'il peut y avoir par exemple un RCCM dans un pays et 200 dans un autre pays. Ce n'est donc pas très satisfaisant. Et enfin, je conclurai sur le fait que les autorités de l'OADA ne se sont pas préoccupées, jusqu'à présent, d'uniformiser la procédure commerciale ni les juridictions commerciales. Par exemple, l'autorité nationale chargée d'apposer la formule exécutoire sur les décisions de la CCJA est différente dans chaque État partie. Alors évidemment, si vous êtes un opérateur économique, je ne sais pas, par exemple, américain ou finlandais, et que vous voulez travailler dans un pays de l'OADA, évidemment, il va falloir que vous fassiez des recherches pour savoir dans quel pays, dans chaque pays, quelle est l'autorité nationale qui décerne la formule exécutoire. C'est précisément cette obscurité que voulait combattre l'OADA au départ. Et cette incertitude. De même, il n'existe aucune règle de droit international privé régissant les conflits entre l'OADA et les multiples organisations régionales africaines, ou rivales ou concurrentes. Alors, il y en a un nombre impressionnant, incroyable. Alors, je peux en citer quelques-unes. La Conférence interafricaine sur les marchés de l'assurance, la CIMA, la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui est donc sous les feux de l'actualité en ce moment, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, et la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, j'en passe et des meilleurs. L'OADA se heurte, comme les autres organisations précitées, à l'absence effective de libre circulation des personnes et des biens, qui est un des maux de l'Afrique. Parce qu'en fait, sur le plan institutionnel, l'intégration en Afrique atteint une sorte de perfection symbolique, formelle. Simplement, ce qui se passe, c'est que quand on est sur le terrain, et moi j'ai vécu en Afrique sur le terrain, passer une frontière terrestre, par exemple, je ne sais pas, entre le Niger et le Burkina Faso, par exemple, ça peut prendre des heures et des heures. Alors, quand on est un simple particulier, qu'on part en vacances, ça va bien. Lorsqu'on est un transporteur éventuellement de produits périssables, c'est déjà plus embêtant. Et hélas, le bakchichage n'est jamais totalement à exclure. Voilà. Donc, c'est un mélange à la fois de sophistication et de rusticité.
Alors, oui, donc on le comprend, l'OADA présente forcément des handicaps et des défauts, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Le premier défaut congénital, on aura compris ma pensée, j'imagine, tient dans le caractère fondamentalement non démocratique de l'adoption des actes uniformes. Généralement élaborés par de grands cabinets d'avocats d'affaires, ils sont adoptés en Conseil des ministres à l'unanimité, l'abstention ou l'absence d'un État parti n'y faisant d'ailleurs pas obstacle. Et ils entrent en vigueur sans même que les parlements nationaux ne soient nécessairement consultés. Ça paraît assez peu croyable. Tout au plus peut-on espérer que les commissions nationales, qui n'ont pas d'existence conventionnelle, on l'a vu, aient pu être saisies et mettre un avis. Alors, de quoi s'agit-il, ces commissions nationales ? Ce sont des commissions créées ad hoc dans chaque pays, par des textes d'ailleurs qui peuvent varier en intensité. Ça peut être un décret, un arrêté, enfin que sais-je, et qui réunissent des magistrats, des avocats, des universitaires... experts en matière de droit uniforme, qui émettent un avis sur les textes qui sont en projet d'adoption, qui proposent éventuellement des correctifs, des améliorations. Le seul fait que ces commissions nationales n'aient pas d'existence dans le traité montre déjà leur faiblesse symbolique. Alors, ce n'est pas du tout leur faire injure, hein, mais je ne les connais pas toutes. Par ailleurs, un autre défaut congénital, c'est que l'OADA a été voulu et pensé par les grands opérateurs économiques internationaux qui y trouvent leur compte, indéniablement. Pourtant, elle s'applique à tout commerçant, y compris le plus petit commerçant au fin fond de la province la plus reculée. La connaissance et l'application du droit uniforme et surtout le recours à la CCJA ne sont pas égaux pour tous les opérateurs économiques. La composition de la CCJA elle-même demeure insatisfaisante. Elle ne comprend que 13 juges pour 17 pays. Ça doit être un cas unique au monde de cour supranationale qui ne comprend pas un juge par pays. Bien. J'ai écrit dans de très nombreux articles des propos virulents pour dire tout le mal que je pensais de cela, mais pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé humblement, bien sûr, à convaincre les autorités de l'OADA. Ça viendra peut-être un jour. La nature hybride de la CCJA est également controversée. Elle est à la fois juridiction de cassation en matière judiciaire, juge de cassation en matière d'arbitrage de droit commun et centre d'arbitrage. Donc la question de l'impartialité des juges est questionnée et mise en cause, et peut-être qu'une réforme pourrait intervenir en ce domaine. Là, on rentre dans des aspects très techniques, donc je passe. Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre son intitulé, l'OADA, on l'a vu, a vocation à traiter tous les pans du droit et pas seulement du droit des affaires. Cette tentation monopolistique est malsaine et dangereuse, surtout si on se rappelle que la CCJA évince les cours suprêmes dans son domaine d'intervention. De façon plus anecdotique, la dénomination de l'ERSUMA, École Régionale Supérieure de Magistrature, ne correspond pas du tout et dès le départ à sa mission, puisque qui est de former tous les juristes et pas seulement les magistrats.
Oui, en effet, effectivement, c'est assez trompeur. Laurent Benkemoun, une question. Au vu du discrédit actuel de la France-Afrique, est-ce que l'OADA en subit un impact ? L'OADA souffre-t-elle de ce discrédit ? L'OADA souffre-t-elle de l'apparente débâcle de la France en Afrique que l'on constate maintenant depuis plusieurs années, et qui est constante et continue?
Merci pour cette question. Non, je vais vous répondre non. Alors, ma réponse est très intuitive et très personnelle, hein, bien entendu. Non, et c'est d'ailleurs une très agréable surprise. Le franc CFA, par exemple, est très combattu doctrinalement et voué à disparaître. Bien. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, rivalisent de mesures anti-françaises. Bien. Par exemple, au Niger, les Français n'ont même plus le droit de débarquer à l'aéroport de Niamey. Moi, j'ai vécu 4 ans au Niger et j'y étais 2 fois en poste. C'est vrai que ça serre le cœur, ça fait mal au cœur. Je n'en dirai pas plus. Plusieurs grandes puissances, alors que soit qu'elles soient hostiles, comme la Russie ou la Chine, ou alliées, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, cherchent à évincer la France de son ancien précaré, avec d'ailleurs pas mal de succès. Mais l'OADA semble rester sous les radars, et c'est tant mieux. Selon moi, il y a plusieurs explications. D'abord, l'OADA a eu la sagesse d'adopter plusieurs langues officielles à partir du traité de Québec, au lieu du seul français initialement. Bien. Par ailleurs, l'OADA a intégré la RDC, un poids lourd démographique, politique, diplomatique, économique, territorial, qui, heureusement, n'est pas une ancienne colonie française. L'OADA a su également s'émanciper de ses origines françaises en s'internationalisant d'une part et en s'africanisant d'autre part.
Alors, pourquoi cette émancipation vous semble-t-elle, Laurent Benkemoun, importante? Quelles en sont les conséquences?
De mon point de vue, cette émancipation est tout simplement un des seuls gages de la survie de l'OADA. Que l'on songe par exemple aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel qui viennent de claquer la porte de la CEDEAO ou du G5 Sahel qui est moribond. Je suis confiant que les autorités de l'OADA sauront pragmatiquement trouver de nouveaux sponsors, par exemple chez les BRICS. De mon point de vue, un jour, on oubliera que l'OADA a été porté sur les fonds baptismaux par la France, et c'est très bien ainsi.
Laurent Benkemoun, on arrive déjà au terme de ce podcast. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre expertise. Je rappelle à nos auditeurs qu'effectivement, vous avez réalisé, au-delà de vos fonctions même, un grand nombre d'écrits sur l'OADA. C'est un sujet qui, je le disais en introduction, est méconnu, mais qui est ô combien important. Et puis on voit, grâce à vos propos, l'importance prise et l'essentialité prise par l'OADA, les défis qui lui restent à relever encore à l'avenir en Afrique. Merci Laurent Benkemoun.
Merci.
Merci à tous, au revoir.